Bienvenue aux Voix du Seigneur avec Pasteur Fiston Calombé. Nous croyons que le message que vous allez écouter va inspirer, encourager et impacter votre destinée. Et voici Pasteur Fiston Calombé.
Bienvenue aux Voix du Seigneur, au microphone, Pasteur Fiston Calombé. Content de vous retrouver encore dans notre émission d'aujourd'hui. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, nous allons être bénis parce que nous continuons notre thématique sur les noms de Dieu. Et comment est-ce que les noms de Dieu peuvent réellement être un secours et une solution pour la situation que nous traversons. C'est depuis le début de la semaine que nous avions commencé avec notre pasteur de la semaine, c'est comme ça que je commence à l'appeler, avec notre pasteur de la semaine, Eric Lantier, qui est déjà sur la ligne. Bonjour pasteur Eric. Content de vous retrouver encore et nous savons qu'aujourd'hui, tu nous fais encore manger de la manne céleste avec les noms de Dieu.
Et oui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de El Roi, le Dieu qui voit. Dieu qui voit.
Amen. Le Dieu qui voit.
Oui, écoutez, depuis notre temps d'enfance, nous les êtres humains, on aime ça que notre papa nous regarde quand on fait quelque chose d'exceptionnel ou quand on veut lui montrer un geste qu'on fait, on veut qu'il soit fier de nous. Par exemple, on est au parc, on veut faire une culbute, une bascule, quoi que ce soit. Moi, je me souviens quand j'étais au hockey, la première fois que mon père est venu me voir au hockey quand j'étais adolescent, parce que mon père travaillait les fins de semaine, il pouvait pas venir me voir. Mais la première fois qu'il est venu me voir, à chaque fois que je lançais la rondelle, je me tournais la tête pour voir si mon père me regardait. C'était comme, j'avais ce désir-là. Et c'est dans tous les enfants. Tous les enfants veulent que leurs parents les regardent. Ils veulent que les parents soient fiers d'eux. Ça veut dire quoi? On recherche l'approbation. On veut être félicité. On veut que nos parents nous regardent, soient fiers de nous, soient concentrés sur nous. Et on a gardé cette attitude-là envers Dieu. On a ce besoin de savoir qu'on est vu de Dieu, que Dieu est concerné par nous, qu'il nous remarque, qu'il n'est pas indifférent, qu'il n'est pas indifférent à nos douleurs, à notre tristesse. Et j'aimerais vous partager dans 2 Rois chapitre 20, l'expérience du roi Ézéchias. Dans 2 Rois 21, on voit que Ézéchias est atteint d'une maladie mortelle. Et à l'heure actuelle, il y a des gens, malheureusement, pas seulement des personnes qui ont de l'âge, mais même des jeunes. On a appris aujourd'hui un jeune médecin de 44 ans qui a perdu la vie.
Oui.
Et donc, la COVID-19 produit pas simplement des symptômes de maladie, mais peut occasionner, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, la mort. Donc, on est très concerné par la mort. Il y a quelqu'un dans ma famille qui est diabétique, qui a été atteinte, on a appris hier, de la COVID-19, et ça crée des complications à cause de sa précarité, la précarité de sa santé. Et ça nous rend sensibles à ce qui se passe. Et dans ce cas-ci, Ézéchiel était atteint d'une maladie mortelle. Et le prophète Isaïe doit lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Et ça, c'est pas drôle. Surtout quand c'est Dieu qui te dit, va dire au roi qu'il n'y en a pas pour longtemps. Et évidemment, le roi, quand il apprend la nouvelle, se tourne vers Dieu, puis se tourne le visage contre le mur, puis il fait cette prière à l'Éternel, au verset 2. Eh bien, il dit, « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre. » Et on voit ça au verset 3. Et au verset 4, Isaïe est sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour, que la parole de l'Éternel lui est adressée. Écoutez bien ça, c'est là qu'il y a le punch. C'est au verset 5. Dieu dit à Isaïe le prophète, « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. » Et donc, ce qu'il est en train de dire, en disant « le Dieu de ton ancêtre David, tu fais partie de la lignée des rois, tu fais partie de ceux qui, un jour, vont faire partie de la lignée du Messie. » tu es celui qui est appelé, qui est élu de Dieu. Tu es dans mon appel. Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Non seulement tu as entendu des mots, entendu des sons, entendu des requêtes, mais Dieu dit, j'ai entendu et j'ai vu tes larmes. En d'autres mots, là, j'ai été concerné par ton état présent. C'est pas juste des mots que j'ai entendus au travers le ciel. Je t'ai vu. J'ai saisi tout l'ensemble de ton vécu et de ta douleur. Et je vais te guérir. Et c'est pas ça qu'on a besoin, nous, de savoir que non seulement on est entendu dans ce qu'on verbalise, dans ce qu'on communique, mais de savoir que d'une manière entière, complète, notre vécu est considéré et notre vécu, eh bien, Dieu en est touché, ça le concerne, il se sent principalement et particulièrement et personnellement concerné. Et c'est ça, être vu de Dieu. Et c'est ce que je recherche, moi, à ce contact, cette relation d'intimité, en disant, Seigneur, est-ce que tu vois ce que je vis? Est-ce que tu ressens ce que je vis? Est-ce que tu es conscient de ce que je vis? Et la réponse, c'est oui. Jésus a été éprouvé en toutes choses, et c'est pour ça qu'il peut compatir à nos faiblesses, Hébreux 4 nous dit. Il peut compatir à notre douleur. Il a éprouvé nos douleurs. Il a éprouvé nos souffrances. Il a éprouvé notre tristesse. Il a éprouvé notre trahison, notre rejet, notre abandon, notre humiliation, notre sentiment d'injustice qu'on peut vivre. Tout ça, il a lui-même vécu. Et c'est pour ça que quand on s'approche de lui, non seulement il le sait, mais il le voit.
Et c'est tellement édifiant, c'est que tu viens à peine de relever ou de révéler aussi, dans le sens que très souvent, quand nous prions, nous avons tout simplement les sentiments comme si Dieu nous attend. Et ça, c'est encore si tu exerces la foi. Parce que si tu ne fais pas la foi, peut-être tu pourras dire, est-ce que Dieu m'attend? Mais alors que dans ces versets ici, la Bible dit non seulement qu'il t'attend, mais aussi il te voit. Quelle assurance! Et dans Hébreux, tu viens aussi de les souligner si fort que Jésus a vécu, il a été éprouvé, il a passé, il a senti ce que nous sentons. Mais cela revient à dire que Jésus aussi, non seulement qu'il a senti, mais il a vu la condition de l'homme. C'est-à-dire, quand tu demandes que Jésus te guérisse, il sait exactement c'est quoi la guérison pour un malade. Parce qu'il a vécu cela, il a porté nos infirmités sur son corps.
Tout à fait. Et ce qui arrive, c'est que souvent, nos émotions nous laissent croire qu'on a l'impression que Dieu n'est pas concerné par notre vécu. Mm-hmm. Et c'est une impression qui n'est pas issue de la vérité. C'est une impression qui est issue du mensonge. Puisque la vérité, Amen. C'est que lorsqu'on Amen. S'adresse à lui, il nous entend et il nous voit. Mm-hmm. Ça, c'est la vérité. Mm-hmm. Si je ressens quelque chose qui est contraire à cela, mes sentiments n'ont pas une origine dans la vérité. Je suis trompé à ce moment-là par mes sentiments. Mes sentiments peuvent être bons, mais lorsqu'elles dérogent de la vérité, là, je ne dois pas les écouter. Je ne dois pas faire confiance à ce que je vis comme sentiment. Et c'est là que je dois revenir à la parole de Dieu pour ajuster mes sentiments, pour dire maintenant, ce que je ressens est faux. Seigneur, maintenant, je veux émotionnellement vivre la vérité, me sentir reçu, me sentir vu, me sentir là, avec toute cette joie-là de ce que tu me vois. Comme par exemple, quand un enfant se blesse et sa maman a vu, elle part à courir, elle s'en vient pour le prendre dans ses bras, pour le consoler, elle a vu et elle sait que l'enfant a besoin d'être rassuré. Et c'est ça, nous. Qu'on a besoin face à Dieu. Savoir qu'il a vu notre douleur et il va s'en charger. Il prend notre cause entre ses mains. Et pourquoi on a l'impression qu'il ne bouge pas parfois, qu'on est tout seul, qu'on est abandonné?
Parce que c'est quelque part, c'est comme si on croit qu'il ne voit rien.
Exactement. Et souvent, on n'est pas conscient qu'il avait déjà prévu être à l'œuvre avant qu'on lui demande. Moi, je me souviens, écoutez, c'est anodin, hein? Mm-hmm. J'étais devant le comptoir à l'épicerie, devant la boucherie, il manquait la pièce de viande que j'allais chercher. Et moi, je me disais, ah, ben, il faut que j'aille le dire au boucher. Moi, je veux acheter cette pièce de viande, et elle est annoncée dans la circulaire. Mm-hmm. Et je me retourne, et le boucher, il a comme son genre de plat rond, là, sur roulette, et il se retourne et dit, c'est ce que vous cherchez? Et donc, Dieu avait des... C'est comme si moi, ça m'avait lancé comme signal. Je faisais l'analogie avec Dieu. C'est Dieu, c'est déjà notre besoin. Il est déjà en train de préparer l'issue. Il est déjà en train de préparer la fin de l'histoire. Mmh. Et quand on lui demande, eh bien, le problème, c'est qu'on n'a pas la patience, souvent, d'attendre l'exécution de sa volonté.
Ah. Et Eric, dites-nous alors... Comment est-ce que le fait que nous avons un Dieu qui voit, et qu'est-ce que cela peut traduire réellement dans notre relation de tous les jours avec lui, par rapport à nos réalités, par rapport à nos défis, comment est-ce que ce Dieu qui voit peut réellement traduire quelque chose de pertinente dans notre vécu de tous les jours?
Dans un premier temps, il faut comprendre, à chaque fois qu'on s'approche du Dieu qui voit, on se rappelle le principe d'Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 11 à 14, Ecclésiaste 3, 11 à 14, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mm-hmm. Il y a un temps où est-ce que Dieu appelle la bénédiction, appelle la délivrance, appelle la guérison, appelle la consolation, et parfois ça peut être instantanément, parfois ça peut être dans un délai très court, et parfois Dieu nous appelle à la persévérance, mais il nous demande de tenir ferme parce que il va pourvoir. Il a résolu de nous sauver, comme on l'a vu hier dans le psaume 71:3. Il a résolu de nous sauver. Donc, il faut avoir cette attente-là. C'est dire, puisque Dieu le dit, je vais lui faire confiance qu'en ton temps, Seigneur, tu as un temps pour la guérison. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un cœur transparent. Le meilleur psaume pour comprendre la transparence et d'être dans une attente envers le Dieu qui voit, c'est dans le psaume 13. Quand le psalmiste dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Il va dire un peu plus loin « Regarde, réponds-moi. » En d'autres mots, est-ce que tu me vois là? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu vois dans quel bourbier je suis, dans quelle misère je suis, dans quelle douleur je suis? Il va parler de ses ennemis, donc il vit de l'opposition. Il vit énormément de stress, de tension, parce que les circonstances autour de lui provoquent de l'opposition. Il est mal à l'aise, il est inconfortable, il se sent oublié de Dieu. Il sent que Dieu ne l'a pas vu. Il sent que Dieu est concerné par plein d'autres choses, à l'exception de lui. Et donc, mais il n'a pas eu cette gêne ou cette timidité d'ouvrir son cœur, de confesser ses doutes, de confesser à quelque part sa colère, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Il a pas eu peur de confesser son état d'âme et en disant, là j'ai besoin d'expérimenter que tu m'as vu, regarde, réponds-moi. Mmh. Et qu'est-ce qui est fait? Le Saint-Esprit est venu le révéler à la fin du psaume. Tout le long du psaume, les 5 premiers versets, il crie à Dieu, il se plaint à Dieu, il verbalise, il confesse son incompréhension. Mais à la fin, au dernier verset, il va dire, « Mais sais-tu quoi, Seigneur? Ça m'a fait du bien de crier parce que maintenant, je vais me reposer dans ta bonté. Je vais faire confiance que parce que tu me vois, tu vas exercer ta bonté. » Et il a fini. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. J'ai l'allégresse dans le cœur. Et il a été, il a confessé sa douleur, confessé sa colère. Il s'est reposé dans la bonté de Dieu. Il a attendu l'expression de sa bonté et ça l'a produit de l'allégresse. Il a expérimenté le Dieu qui l'a vu parce qu'il dit, regarde, réponds-moi. Il a demandé à Dieu, je veux que tu vois ce que je suis en train de vivre. Mm-hmm. Et Dieu a manifesté sa bonté à un point tel que ça a produit de l'allégresse et il en a composé un chant pour nous instruire, à persévérer, à crier à lui. Parce qu'il dit, pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Et c'est souvent notre impression humaine, c'est encore une fois tu m'as oublié, Seigneur. Encore une fois tu m'as laissé de côté. Encore une fois.
Tu ne m'as pas regardé.
Exact. Mais le psaume 33, un autre psaume qui est intéressant, au verset 5, ça nous rassure sur cette bonté dans laquelle on doit se reposer parce qu'il dit la bonté de Dieu est accessible en tout lieu. En tout lieu. Il n'y a pas un lieu sur terre que la bonté de Dieu ne peut pas s'exprimer. Que tu sois à Chibougamau, que tu sois à Tombouctou, que tu sois au pôle sud, au pôle nord, à Jérusalem, que tu sois en Afrique, que tu sois en Floride.
Et c'est ce que même David dit dans le psaume 139. Il dit où fuirais-je loin de toi? Donc et puis il commence à dire si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et il cite, peu importe même le lieu, il dit que tu es là, parce qu'il voit.
Absolument. On ne peut pas se cacher du regard de Dieu. C'est impossible. Parce que dans le même psaume, le psaume 33, les versets 14 et 15, psaume 33, 14 et 15, il dit de son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Il reste attentif à chacun de leurs actes. Tous nos actes sont l'objet de l'attention, de l'observation, du regard de Dieu. Tous nos actes.
Deux fois, Dieu même nous voit sans qu'on soit conscient réellement qu'il est en train de nous voir dans notre situation, dans notre état. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob dans Genèse 28, 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » C'est quand lui, il a vu Dieu, qu'il s'est rendu compte que, « Oh, Dieu était ici. » Alors que Dieu était déjà là bien avant, Dieu le voyait en toutes choses.
Absolument, absolument. Et ce même Jacob, dans Genèse 31, 11 à 13, Genèse 31, 11 à 13, Dieu lui a révélé et lui a dit, « Je vois l'injustice que tu as fait. » Il la voit. Et souvent, on se dit, « Pourquoi tu permets ça, Seigneur? Tu vois pas que... un tel est en train de me faire du mal ou une telle n'a pas raison de me faire ça. » Dieu dit, je la vois. Et c'est pour ça que dans Romains 12, 19, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi là, c'est pas à toi à réagir. Laisse-moi agir dans la situation.
Parce que je vois.
Oui, Dieu voit l'injustice. Il a dit la même chose à Jérémie dans Lamentation 3:59. Dieu voit l'injustice.
Et non seulement que Dieu voit l'injustice, les choses qu'on fait contre nous ou les choses qu'on fait du mal contre les autres, mais aussi Dieu voit le présent, Dieu voit le passé et Dieu voit le futur. Quelle assurance!
Absolument. Oui, et la meilleure position pour vivre et expérimenter cet aspect-là qu'on est vu de Dieu, même s'il voit chacun de nos actes en tout lieu, nous, on peut en prendre plus ou moins conscience. Et là où est-ce qu'on peut en prendre pleinement conscience, c'est quand on se retrouve au pied du Seigneur dans l'humilité. Parce que Dieu dit dans Psaume 138:6, Dieu voit les humbles. Il les voit les humbles. Il a un regard particulier, un regard tout particulier, parce que la parole de Dieu le mentionne. Il mentionne qu'il voit les humbles. Il a un regard pour les humbles. Et l'humble, c'est celui qu'on voit dans le psaume 25, verset 11 à 14, psaume 25, 11 à 14, c'est celui qui se laisse instruire par lui, enseigner par lui. Et si on est à l'écoute de ce qu'il veut nous instruire, nous conseiller, nous corriger, nous former par sa parole, par ses principes, eh bien, il voit notre réceptivité. Il la voit, ça. Et ça il prend plaisir à voir notre réceptivité à sa parole, à son conseil, à sa direction. Et ça, c'est précieux pour le Seigneur, ça.
Et je pense aussi que, comme vous l'avez bien si dit, pour que nous puissions réellement bénéficier de ce regard de Dieu, nous devons aller à ses pieds. Et aussi, nous devons aussi nous réveiller dans le fait de savoir que Dieu réellement nous voit. Nous voit non pas dans le sens de nous surveiller, mais nous voit dans le sens d'un père qui a un regard sur ses enfants. Un regard d'attention, un regard d'amour, un regard de protection, un regard d'approbation, comme vous l'avez si bien dit en commençant là. Et si nous regardons même aussi toujours le verset de Jacob, Genèse 28, verset je pense 6, où la Bible dit « Jacob se réveilla et dit » ça c'est ce qui m'a vraiment encore touché dans ces versets-là. Il dit « Jacob s'éveilla de son sommeil et dit certainement « L'Éternel est en ces lieux et je ne savais pas. » Je pense qu'au travers de cette parole que tu nous amènes, c'est comme si tu viens de nous réveiller, nous qui étions endormis comme Jacob, par rapport à cette fée-là. Oui, par rapport à cette dimension-là, que Dieu nous voit. Même si on ne sent pas qu'il nous voit, même si on n'est pas certain qu'il nous voit, mais Dieu nous voit partout là où nous sommes. Et il nous voit comme un père qui jette un regard paternel sur nous, qui a un regard d'amour sur nous. Et une des bénédictions même que Dieu avait dit à Moïse, comment dire à Pharaon de bénir son peuple. Ça m'a tellement touché. C'est le Nombre chapitre 6, verset 22, 23, mais le verset clé c'est le verset 24. Le verset 22 dit ceci: l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Et ça, c'est une bénédiction, la formule de la bénédiction de Dieu lui-même. Le verset 24, écoute ce que la Bible dit, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est le verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc, le mot « face » ici est rentré deux fois dans la même bénédiction pour dire que je vous regarde. N'est-ce pas ça, Eric?
Absolument. C'est réconfortant. Hein? Et c'est pour ça que le regard du Seigneur est sur nous. Il reste attentif à chacun de nos actes, à chacune de nos actes, et ça nous rappelle que justement, il a un regard bienveillant sur nous.
Amen. Amen. Un regard de bénédiction comme dans Nombre.
Oui, tout à fait, exactement. C'est un regard de bénédiction parce que il veut justement qu'on puisse être sensible à sa présence. Mmh. Et lorsqu'il est présent, il est sensible à notre présence. Souvent, on met l'accent d'être sensible à la présence de Dieu, mais on oublie que lui, il est sensible à notre présence. Mmh. Un berger est toujours sensible à la présence de ses brebis. Sensible à la marche de ses brebis. Il est sensible, est-ce que la brebis va s'égarer? Est-ce que la brebis est en danger? Est-ce que la brebis est face à une bête, à un loup, à un renard? Et donc, nous, on est appelé être sensible à sa présence, mais se rappeler quand on est en sa présence, que lui est sensible à notre présence.
Juste comme Jacob, il se réveilla et dit, « Oh, je ne savais pas que l'Éternel était ici.
» Exactement. Wow, c'est tellement beau, ça. Dans cette perspective-là, ça donne toute une lueur et une couleur à la sensibilité. Et ça nous rappelle, sais-tu ce que tu viens de dire, là? Ça me rappelle à l'instant l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Dieu. On met beaucoup d'accent sur la sainteté, sur la transcendance de Dieu, où est-ce que Dieu est saint, il est dans une sphère qui est inadmissible, et il nous a rendu accessible à sa présence. Mais ça, c'est dans toute sa divinité. Mais il ne faut pas oublier que cette divinité-là s'est faite être humain et a habité parmi nous. Mmh. Et on est appelé à connaître également l'humanité de Dieu. C'est pour ça que Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Mmh. Et le regard de Dieu nous ramène à cette humanité de Dieu, à cette personne de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, c'est une autre dimension de Dieu que nous avons découvert. Un Dieu qui voit. Il voit avec un regard de bénédiction, parce que nous sommes son peuple, nous sommes ses brebis. Et comme il est dit dans Nombre, comment est-ce que Aaron devrait bénir le peuple de Dieu? Il dit que la face de l'Éternel se tourne vers toi et que sa face puisse luire sur toi. Et c'est ça le regard de Dieu.
Ah oui, c'est reposant. C'est reposant de savoir que c'est sa face qui luit sur nous. Et ça produit un repos, un état de bien-être, un état de sécurité, ce sentiment d'être connu par lui, je suis sans mots.
Alors, Eric, j'aimerais vraiment qu'en ce moment précis, les gens qui peut-être se sentaient dans l'insécurité, les gens peut-être qui se disaient « personne ne s'occupe de moi, personne ne vient même pas me visiter, personne n'est concerné à mes problèmes, parce que j'ai comme l'impression que personne n'a un regard favorable sur moi. » Et comme la Bible dit que l'Éternel jette un regard favorable sur nous, parce que c'est l'Éternel qui est bienveillant. Il veut tourner sa face vers toi. Qu'est-ce que tu pourras dire au peuple de Dieu à la fin? Et j'aimerais aussi que tu puisses sceller cette parole, cette manne. N'oublie pas, c'est toi notre pasteur de la semaine. Alors, on aimerait avoir aussi ta parole, ta prière à la fin de cette émission.
Écoutez, le Seigneur le dit lui-même, hein? Quiconque demande, reçoit. Quiconque cherche, trouve. Quiconque frappe, je lui ouvrirai. Et donc, le Seigneur nous place parfois dans des situations où est-ce qu'on fait simplement demander et on reçoit. Et c'est parfois, on fait appel à lui, on frappe, il rouvre la porte, mais d'autres fois, il faut chercher. Donc, ça veut dire qu'on ne trouve pas à l'immédiat, parce que si on trouve à l'immédiat, on n'a pas besoin de chercher. Parfois, justement, il y a cette foi-là requiert qu'on fait confiance que la provision est là, mais elle n'est pas instantanément là. Et donc, c'est l'appel à la persévérance, à crier à lui. Je vous invite à relire le psaume 13, le méditer, et de vous l'approprier, de le prier, de crier à Dieu, de ne pas avoir cette gêne ou cette pudeur. L'ennemi veut vous rendre stérile en vous disant « t'as pas le droit de dire à Dieu jusqu'à quand m'as-tu oublié ». Si le psalmiste l'a fait et qu'il en est résulté une bénédiction à la fin du passage, à la fin du chapitre, bien c'est parce que Dieu veut nous conduire dans cette voie-là. Ne te prive pas de la bonté de Dieu. Repose-toi sur sa bonté qui ne te rejette pas si tu viens crier à lui en te questionnant, en exprimant tes doutes, en exprimant ta colère, en exprimant ton impatience. C'est là, c'est au pied de celui qui nous sauve, qui rachète nos fautes, qu'on doit les exprimer. Et ça nous amène à mettre sainement Dieu au défi d'agir. Et c'est ça qu'il veut. Il nous appelle ses témoins. Donc, ça veut dire qu'on le voit agir. Notre vocation, c'est d'être de ceux qui le voient agir. Donc, crions nos douleurs, nos craintes à Dieu pour le voir agir et témoigner comme le psalmiste qui nous a fait du bien.
Amen, 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 amen. Bien-aimés, vous avez un Dieu qui voit. Et amen. Il vous voit là où vous êtes. Le livre de Nombres dit ici, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Il y a un regard de Dieu qui amène la grâce de Dieu sur toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde et qu'il te donne la paix. Il y a un regard de Dieu sur toi qui amène sa paix sur toi. Alors, j'aimerais demander au pasteur Eric de prier pour la grâce et la paix de Dieu. Maintenant que nous savons que le regard du Seigneur est sur son peuple.
Oui, Seigneur, on veut découvrir, ressentir, vivre pleinement cette réalité que chacune de nos actes, chacune de nos actions sont sous ton regard, sous ta bienveillance. Tu es concerné par nos vies. Et il y a plein de circonstances qui font en sorte que on a l'impression de tout le contraire, Seigneur. Mais c'est faux. Et on veut confesser que c'est faux. Mais en même temps, on a tellement soif et tellement faim de te voir intervenir pour pouvoir témoigner que tu as encore répondu, pour pouvoir témoigner que tu es vivant, tu nous connais personnellement, tu nous vois, tu es concerné. Seigneur, que personne ne se prive de cette grâce, de cette bonté, qu'on puisse encore entendre des témoignages de gens qui vont se réjouir, qui vont dire « j'ai l'allégresse dans le cœur » comme le psalmiste. Parce que tu m'as fait du bien. Seigneur, on va être entouré d'une nuée de témoins qui crient et qui chantent que tu es celui qui voit, tu es celui qui nous connaît et tu sais ce dont on a besoin et que tu nous le donnes en ton temps favorable, Seigneur. Que ce temps favorable, ma prière, c'est que ce soit aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Quant à moi, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Et pasteur Eric, merci beaucoup. Et demain encore, nous sommes avec notre pasteur de la semaine, pasteur Eric Lantier, pour la conclusion sur les noms de Dieu. Laisse que le Dieu qui voit vous localise dans votre situation, vous localise dans votre malheur, vous localise là où personne ne peut vous localiser, car il est le Dieu qui voit et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Et à demain, on se retrouve à la même heure sur le Voix du Seigneur. Au microphone, pasteur Fiston Kalambay. Soyez donc bénis.
C'est tout pour aujourd'hui. Si ce message vous a béni, ne manquez pas demain à la même heure, les Voix du Seigneur avec pasteur Fiston Kalambay. À la prochaine.